Écho d'ici, écho d'ailleurs. Jean-Pierre Boris, Guillaume Munier.
Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Écho d'ici, Écho d'ailleurs, l'émission qui démonte les rouages de l'économie mondiale. Aujourd'hui, dans sa version grand invité de l'économie RFI Jeune Afrique, avec Julien Clémenceau de Jeune Afrique. Bonjour Julien.
Bonjour Jean-Pierre.
Nous recevons aujourd'hui Mossadegh Bahi. Bonjour Mossadegh Bahi.
Bonjour.
Mossadegh Bahi, vous êtes le fondateur et le président d'une chaîne hôtelière panafricaine qui s'appelle Azalaï. Ce n'est pas une affaire dont vous avez hérité, mais que vous avez créée de toutes pièces. Vous avez baptisé votre groupe du nom donné en tamashek aux caravanes de commerçants Touareg, et cela renvoie à votre histoire familiale. Quelle est-elle, cette histoire familiale ?
Alors, d'abord, merci de m'avoir invité sur ce plateau. Je suis issu d'une famille de commerçants, originaire du nord du Mali, du petit village d'Arawane qui est à 250 km au nord de Tombouctou. Et on a le commerce comme tradition dans la famille. Je suis moi-même né à Niamey, puisque mon père était installé là-bas, il faisait son commerce. Après, j'étais à l'école à Bamako, à Marseille et aux États-Unis.
On va revenir sur tout ça, mais restons sur cette tradition familiale. Que votre père commerçait-il exactement ?
Mon père a commencé à faire du commerce de textile à Tombouctou, à Gao, à Nsongo, à Bamako.
Donc c'était dans quelles années ça ?
Ah, c'était dans les années 40, 50.
Donc avant les indépendances.
Avant les indépendances, bien sûr. Et à l'indépendance du Mali, on a eu le premier régime, le régime de Modibo Keïta, était un régime communiste. Donc les activités privées étaient interdites. D'ailleurs, les commerçants étaient appelés les ennemis du peuple. Donc mon père, pour exercer son métier de commerçant, a été obligé de s'expatrier sur le Niger et de s'installer à Niamey.
Et donc là, toujours le textile ?
Toujours le textile à Niamey. Et ensuite, après le coup d'État de 1968, il est revenu au Mali, à Bamako. Et là, il a commencé à s'intéresser à l'importation et à la distribution de denrées alimentaires.
De riz ?
De riz, de sucre, de thé, de farine. Et d'ailleurs, moi, j'ai passé mes 10 premières années professionnelles à faire du négoce international de denrées alimentaires.
Une activité passionnante dont nous allons continuer à parler au cours de cette émission, Mossadegh Bahi, mais pas seulement. Nous allons parler du marché hôtelier africain, des difficultés économiques et politiques auxquelles ce marché est confronté et de ce que la situation de votre secteur hôtelier nous dit de l'état des économies africaines. Une première question de Julien Clémenceau de Jeune Afrique.
Mossadegh Bahi, on va continuer à parler de votre parcours. On a vu que vous étiez issu d'une famille de commerçants, né à Niamey. Et puis, au début des années 80, vous suivez les cours de l'école de management de l'université de San Francisco. Comment vous êtes-vous retrouvé là-bas ?
Je dirais que j'ai été incité par des cousins à moi qui étaient aux États-Unis et notamment au Colorado, à Boulder. J'ai fait mon bac à Marseille. C'est vraiment par hasard que je me suis retrouvé. Sinon, je faisais le lycée technique de Bamako. J'envisageais de faire mon bac au lycée technique de Bamako et ensuite d'aller étudier à l'extérieur. Et par hasard, je me suis retrouvé à Marseille. J'ai fait le bac. Et j'ai été attiré par les États-Unis très tôt. Et mes cousins qui étaient à Boulder, au Colorado, aux États-Unis, m'ont encouragé à venir aux États-Unis au lieu de faire des études supérieures en France.
Des cousins qui étaient aussi, eux aussi, issus de familles commerçantes ?
Tout à fait. Une famille commerçante qui est liée à la mienne, puisqu'on a des liens familiaux.
D'accord. Et dans vos familles, les études, c'était quelque chose d'important ?
Alors, disons que c'est vrai que j'ai, dans ma famille, le commerce a attiré les membres de ma famille assez jeunes. Donc, beaucoup de mes frères ont quitté l'école pour faire le commerce très tôt. Et moi, j'ai décidé quand même de poursuivre mes études et d'aller jusqu'à l'université.
Et ça, vos parents l'ont tout de suite accepté?
Ah, mon père, oui. Mon père encourageait tout enfant qui voulait étudier. Donc, vraiment, il nous a laissé le choix. Et quand je lui ai dit que j'ai eu mon bac, je vais aller étudier aux États-Unis, parce que je suis pas allé avec une bourse de l'État malien, je suis allé sur les finances de mon père, il m'a encouragé.
Et pourquoi San Francisco et pas Boulder alors?
Et là aussi, c'était pur hasard. Quand j'ai décidé d'aller aux États-Unis, j'ai passé mon TOEFL à Marseille et j'ai écrit à plusieurs
unités. Le TOEFL, c'est le test
of English as a foreign language. C'est l'examen d'aptitude en anglais. J'avais une bonne note d'ailleurs à ce test. J'ai écrit à plusieurs universités. Et la première qui m'a répondu, qui m'a accepté pour faire d'abord 2 mois de cours d'anglais pour parfaire mon anglais, c'était l'University of California à Berkeley. Ils avaient une antenne à San Francisco et c'est comme ça que je me suis retrouvé à San Francisco.
Et c'est un conseil que vous donneriez aux jeunes Africains aujourd'hui, allez faire vos études aux États-Unis?
Ben, disons que aujourd'hui, je ne donnerai pas ce conseil sincèrement pour la simple raison que c'est devenu excessivement cher. Quand moi j'allais aux États-Unis, c'était encore raisonnable. Donc il y a quand même, j'ai allé aux États-Unis en 82, donc c'était très très raisonnable. Aujourd'hui, une année scolaire dans une université américaine, c'est $50,000. Donc si vous voulez faire un bachelor en 4 ans, vous allez dépenser minimum $200,000. Je ne pense pas que ça soit financièrement rentable d'aller dépenser $200,000 dans un diplôme et venir travailler sur le continent africain.
Alors, Mossadegh Bahi, il y a une question qui me vient à l'esprit, c'est la France a décidé de faire payer leurs études aux étudiants étrangers à un prix bien supérieur à ce qu'ils avaient l'habitude de payer. Vous en pensez quoi? Vous avez entendu cette information?
Oui, tout à fait. Même ce matin, j'ai écouté sur votre antenne, il y a un débat actuellement à l'Assemblée nationale là-dessus. Moi, je pense que c'est une décision qui est inappropriée. Déjà, il faut pas oublier que les jeunes du continent africain sont naturellement attirés par le continent américain, notamment les États-Unis et le Canada. Beaucoup venaient ici parce que, bon, il y a la facilité de la langue, mais il y a aussi le fait que ça ne coûtait pas très cher. Donc, si on augmente le prix, on peut augmenter, mais pas dans ces proportions. Je crois qu'on a multiplié par 160 ou quelque chose comme ça. Ça pourrait être une augmentation graduelle, mais pas brusque comme ça. À mon avis, ça va réduire le flux d'étudiants africains qui vient vers la France.
Julien Clémenceau.
Une fois diplômé aux États-Unis, vous êtes rentré travailler dans l'entreprise familiale, donc spécialisée dans le négoce, on l'a vu, notamment les denrées alimentaires, et vous êtes occupé des finances. Puis en 1993, vous avez décidé de monter votre propre entreprise et vous avez acheté le Grand Hôtel en plein centre de Bamako. Pourquoi avoir décidé comme ça de quitter une entreprise qui visiblement était prospère? Votre papa avait pu vous payer des études aux États-Unis pour monter votre propre groupe dans un domaine que vous ne connaissiez pas?
Plusieurs raisons. D'abord, après 10 ans, je dois avouer que j'ai beaucoup appris dans ce métier, que j'avais commencé étant déjà élève. Donc nous, on passait les 3 mois de vacances à Tombouctou, à Mopti, à Gao. Donc on allait dans les boutiques de notre père et c'est là qu'on passait les vacances. Donc dès le jeune âge, je me suis intéressé à l'entrepreneuriat. Donc après 10 ans dans le négoce international, acheter et vendre, je trouvais que je devais et je pouvais avoir un impact beaucoup plus important en investissant dans une activité industrielle créatrice de valeur ajoutée et d'emploi. Donc j'ai commencé à chercher des...
C'est-à-dire le négoce, c'était de l'argent trop facile?
C'est pas que c'est de l'argent trop facile, non. Le négoce est un métier très difficile, très stressant, parce que vous prenez beaucoup d'engagement, vous vous endettez à la banque pour importer, vous n'êtes pas sûr de vendre à temps, payer vos lettres de crédit. Mais la valeur ajoutée du négoce est très minime, est très réduite. On crée pas beaucoup de valeur ajoutée. Moi, je dirigeais une entreprise, comme vous le dites, une grande entreprise de négoce qui n'était pas qu'au Mali, mais dans toute la sous-région. Je faisais plus de $150 millions de chiffre d'affaires avec 15 personnes. Aujourd'hui, j'ai créé plus de 1000 emplois directs et presque 2000 en indirect. Voilà
avec
l'impact.
Quel chiffre d'affaires?
En 2018, nous avons fini l'année avec 40 millions d'euros de chiffre d'affaires parce que c'est le secteur du service. Donc, le chiffre n'est pas le même que le négoce de denrées alimentaires. Donc, c'est ça que je cherchais, à avoir plus d'impact économique au Mali et dans la sous-région. Personnellement, je trouvais aussi que le fait d'avoir fait une école de commerce, donc des études supérieures, je m'épanouissais plus en montant des business plans, en discutant avec des bailleurs de fonds pour financer à long terme, que de faire une activité qui est finalement une activité à court terme. Vous achetez un bateau de riz, vous faites une lettre de crédit sur 90 jours, vous faites tout pour vendre et rembourser la banque. Alors que là, vous faites un business plan sur 10 ans, 12 ans, vous discutez avec des bailleurs de fonds long terme, des fonds d'investissement. Donc intellectuellement aussi, je me sens beaucoup plus épanoui aujourd'hui dans ce métier que je fais.
Dès le départ, donc, vous avez cette idée de vous tourner vers les bailleurs de fonds et notamment vers l'AFC, la filiale de la Banque mondiale dédiée au développement du secteur privé. Qu'est-ce qui les a convaincus, eux, de vous accompagner? On est quand même au début des années 90 et le projet que vous allez monter, il n'est pas si fréquent que ça et c'est un risque aussi pour l'AFC.
Oui, c'est vrai que je dois reconnaître que l'AFC, la SFI en français, a eu, comme on dit, le nez creux. En pariant sur ce projet que j'avais pour le Mali. Ils ont compris que le Mali, d'abord, c'était les premières années de la démocratie au Mali, puisqu'on avait eu le changement de régime en 91, des élections libres et transparentes en 92. Donc, il fallait aider le Mali à se développer. Et le secteur hôtelier était très pauvre. Il n'y avait que deux hôtels à Bamako, le Grand Hôtel de Bamako, l'Hôtel de l'Amitié, qui était géré par l'État, donc très mal géré. Et il fallait aider ce pays à avoir des hôtels de standing international. Donc quand j'ai présenté mon projet à la SFI, ils ont vu aussi mon track record en tant que chef d'entreprise. Donc je suis pas aussi, j'étais pas un start-upper comme on dit. Donc j'avais un track record, je dirigeais une entreprise qui avait un vécu, et j'avais une formation aussi académique qui était solide. Donc ils ont cru en mon projet et effectivement.
Et vous aviez des garanties financières?
La garantie financière, c'était l'hôtel. Alors, quand j'ai créé la Société malienne de promotion hôtelière en 93, on a soumissionné à l'appel d'offres que le Mali avait lancé pour privatiser le Grand Hôtel de Bamako. On a eu la chance de gagner cet appel d'offres. On a racheté l'hôtel. Grâce d'ailleurs, et ça je ne cesserai jamais de le dire, grâce à un grand monsieur qui aujourd'hui est décédé, Feu Bourema Silla, qui était le président directeur général à l'époque de la Bank of Africa Mali, qui m'a prêté 500 millions de francs CFA avec lequel on a acheté le Grand Hôtel de Bamako. Et ensuite, il fallait rénover parce que l'hôtel était dans un piteux état. Donc c'est là que je me suis adressé à la SFI, qui nous a prêté $1 million avec lesquels on a rénové l'hôtel. Et on a donné en garantie et à la Bank of Africa Mali et à la SFI une hypothèque sur l'hôtel qu'on venait d'acquérir.
Mossadegh Bailly, vous êtes le patron de la chaîne hôtelière Azalaï et vous êtes aussi momentanément le grand invité de l'économie RFI Jeune Afrique. On parle de l'Afrique, de l'hôtellerie africaine. En 1998, vous avez ouvert votre capital au fonds d'investissement Coris Management. Aujourd'hui, en plus de ce fonds, d'autres investisseurs institutionnels ont mis de l'argent chez vous. Afrique Invest, Phoenix Capital détiennent une partie de vos avoirs, de votre capital. Vous n'avez pas peur de perdre votre indépendance dans cette affaire-là? Vous n'avez pas vendu votre âme au diable? Il n'exige pas un retour sur investissement démesuré pour se rémunérer?
Oui, bien sûr, les fonds d'investissement attendent un retour sur investissement et souvent d'ailleurs cette attente sur le continent est une attente qui est parfois assez élevée, je dois le reconnaître. Mais disons que j'avais le choix entre rester à quelques hôtels avec les moyens propres ou se développer en s'associant à des fonds d'investissement. Donc j'ai choisi de grandir. Je dis toujours, je préfère avoir 15% d'une chaîne hôtelière qui possède 100 ou 200 hôtels que d'avoir la situation d'aujourd'hui où je suis l'actionnaire majoritaire du groupe Azalaï, avec une dizaine d'hôtels. Donc, nous avons une vision de nous développer sur le continent africain. Et pour cela, nous avons besoin de fonds propres. Et ces fonds d'investissement que nous avons choisis, parce que il y en a d'autres que nous n'avons pas fait rentrer dans notre capital. Ceux que nous avons choisis, nous les avons choisis parce que nous partageons les mêmes valeurs. Ils nous apportent en plus du capital, ils nous apportent les meilleures pratiques, ils nous apportent du réseautage, ils nous apportent des conseils.
Les fonds que vous n'avez pas choisis sont des fonds non africains. Qu'est-ce qui a fait que ces fonds-là ont été choisis et pas d'autres? Et peut-être pouvez-vous nous donner quelques noms?
Ben, je vous donnerai pas de nom, mais par contre, oui, nous ne les avons pas choisis parce que dans nos discussions, nous avons compris qu'ils avaient une approche beaucoup trop financière et pas une approche de long terme et d'accompagnement de l'entreprise. Nous recherchons des partenaires qui veulent accompagner le développement du groupe Azalaï. Pas uniquement, bien sûr, ils sont là pour aussi avoir un retour sur investissement. Donc, ces trois fonds qui sont dans notre capital nous apportent réellement cette valeur ajoutée que nous recherchons dans tout investisseur institutionnel.
Mossadegh Bahi, la semaine dernière, Écho d'ici, Écho d'ailleurs, était consacré à la situation de l'économie mondiale et les deux invités qui étaient dans notre studio, Véronique Riche-Flores et El Moumou, ont constaté de concert que la situation économique internationale n'était pas très favorable aux investissements en Afrique. Écoutez ce qu'il disait.
En fait, quand on regarde l'évolution des investissements directs, ils ont repris depuis 2012 très nettement. Alors, il y a aussi des opérations financières là-dedans, mais il y a une reprise. Mais c'est effectivement plutôt en Amérique du Nord, en Asie, dans les 10 grandes économies en croissance d'Asie, pour accéder au marché, et assez peu en Afrique. La part des pays d'Afrique dans l'accueil des investissements directs reste inférieure à 3%. Donc, c'est quelque chose qui est assez inquiétant. Et les investissements directs qui vont en Afrique, ils vont plutôt dans le secteur des hydrocarbures, des matières premières, plutôt que dans des secteurs de biens manufacturés ou de services ou d'accès au marché. Ce qui sauve l'Afrique d'une certaine manière, c'est aussi l'afflux d'investissements directs chinois et l'utilisation de ces excédents chinois dans des domaines des infrastructures ou des matières premières, etc. Donc en effet, en termes de croissance, de manière conjoncturelle aujourd'hui, l'Afrique est quand même le continent délaissé.
Véronique Riche-Flores, cette dernière frontière du développement de la croissance mondiale dont on disait que c'était l'Afrique, il est pénalisé ce continent par la situation économique actuelle?
Si on revient au début de la décennie, tous les économistes nous parlaient de l'expansion du monde émergent, tirée par la Chine, l'émergence de cette nouvelle classe moyenne, des besoins, etc. etc. Dans ce contexte-là, l'Afrique trouvait une place légitime et presque naturelle du fait de ses abondantes richesses. Les Chinois ont investi massivement en Afrique pour rapprocher, sécuriser leurs ressources naturelles quelque part. Une fois que l'économie chinoise s'est embourbée, n'a plus eu les moyens, après s'être endettée comme elle l'a fait, de soutenir artificiellement sa croissance dans des proportions d'ailleurs intenables, et bien finalement on a assisté à un ralentissement généralisé de la croissance du monde émergent et de la croissance des besoins en matières premières. Et ça, c'est revenu effectivement comme un facteur négatif, défavorable à la poursuite de la dynamique de l'investissement en Afrique.
Cette situation vous inquiète, Mossadegh Bahi?
Oui et non. Oui, parce que le continent, ces dernières années, effectivement, traverse notamment dans plusieurs pays, dont le mien, le Mali, des difficultés, notamment au niveau sécurité. Non, parce que en réalité, il y a deux facteurs. Le premier facteur, c'est qu'on a tendance à se focaliser sur les IDE, les investissements directs étrangers, et pas assez sur les investissements endogènes à l'Afrique. Ceux qui investissent majoritairement sur le continent, ce sont les Africains d'abord. Et ça, on n'en parle pas souvent. Les Africains investissent énormément sur leur continent. Ensuite, il y a un facteur aussi qu'on néglige ou peut-être qu'on n'est pas très au courant, c'est que l'appareil qui récolte dans tous nos pays, les appareils qui récoltent les statistiques, ne sont pas des appareils rodés. Donc on n'a pas des statistiques très fiables. Je me rappelle, le professeur Carlos Lopez avait donné une
conférence. Qui vous a précédé il y a quelque temps.
Exactement,
ici.
Avait donné une conférence à notre invitation d'ailleurs à Bamako. Et il nous a vraiment éclairé sur les statistiques en Afrique qui sont pas du tout fiables. D'ailleurs, lorsque le Nigeria a décidé de réévaluer son PIB, tout d'un coup, le Nigeria est passé devant l'Afrique du Sud. Donc, je pense que les statistiques officielles que nous avons sur le continent africain, il faut les prendre avec...
Donc, vous pensez que ces statistiques sous-évaluent les investissements sur le continent ?
Sur le continent, et notamment les investissements africains sur le continent africain.
Mais quels sont ces Africains qui investissent ? C'est vous ? C'est quoi ?
Il y en a beaucoup, hein, croyez-moi, il y en a beaucoup. Des investisseurs comme moi, il y en a beaucoup dans tous les pays africains. Dans tous les pays africains, il y a beaucoup d'investisseurs. Et aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est le développement des groupes africains, les investissements transfrontaliers de groupes régionaux comme le groupe Azalaï, comme des groupes bancaires et des groupes de d'assurance tels que Sunu, NCA, les groupes bancaires tels que Ecobank, BOA, les groupes hôteliers comme le mien ou comme le groupe de Telium. Il y a énormément d'investissements transfrontaliers en Afrique, à mon avis, qui ne ressortent pas dans ces statistiques-là. Donc, on ne regarde que les investissements qui proviennent de l'Europe, du continent américain et du continent asiatique. On tente à se focaliser, et d'ailleurs, il y a un grand débat qui est essentiellement ici chez vous. Est-ce que les investissements chinois sont bons pour l'Afrique et tout ça? C'est parce qu'on se focalise sur ces investissements et on oublie ce que les Africains font. Par exemple, Aliko Dangote est en train de faire...
Le Magna nigérian
est en train de faire, je prends l'une des plus grandes raffineries dans le monde. Il est en train de le financer à Lagos pour que le Nigeria arrête d'exporter son pétrole brut et d'importer du pétrole raffiné.
Julien Clémenceau.
Votre chaîne hôtelière, elle illustre parfaitement ce que vous venez de dire, c'est-à-dire ces investissements, et notamment ces investissements transfrontaliers. En 25 ans, vous êtes passé de 1 à 10 hôtels. Vous le disiez tout à l'heure, votre souhait, c'est d'être à la tête d'une chaîne qui en ferait 100 ou 200 à l'échelle du continent. Et vous visez particulièrement les hommes d'affaires. Donc, ces hommes d'affaires, leur nombre aussi a décuplé, et ça aussi, c'est un autre indicateur ?
Ah oui, absolument et totalement. Et là aussi, je reviens à mon commentaire précédent. Notre clientèle est essentiellement une clientèle africaine. C'est-à-dire, 70% des hommes d'affaires, des femmes d'affaires, des voyageurs d'affaires qui résident dans nos hôtels, parce que c'est vrai, nous sommes une chaîne hôtelière qui est dans le segment business. On n'est pas dans le loisir, donc dans l'hôtellerie balnéaire. Ce sont des hommes d'affaires ou des femmes d'affaires qui vivent en Afrique. Ce n'est pas forcément que des Africains, mais c'est peut-être le cas d'un groupe français qui réside à Abidjan, qui va en mission à Dakar ou à Bamako ou à Ouagadougou. Donc là aussi, on a tendance à oublier que le voyage intra-africain est prédominant par rapport au voyage intercontinental. Mais ça se développe. Il y a aussi... La classe moyenne africaine qui grandit, qui grossit, qui voyage aussi, et qui voyage de plus en plus sur le continent.
Mais justement, vous ne visez pas spécialement cette clientèle touristique ou de loisirs. Quand on parle de la classe moyenne qui voyage, elle peut aussi voyager pour ses propres loisirs, pour aller voir la famille, pour diverses raisons. Est-ce que vous allez rester à l'écart de cette clientèle ? Est-ce qu'à un moment donné, vous allez faire des produits qui la concernent ?
Peut-être, sur le plan stratégique aujourd'hui, notre vision est de continuer à se développer uniquement sur le continent africain. Nous avons commencé par l'UEMOA. Nous sommes dans les 7 pays de l'UEMOA. Il n'y a que le Togo où on n'arrive pas encore à démarrer un projet. Ça fait des années qu'on essaye, mais on n'y arrive pas.
C'est un problème de foncier ?
C'est un problème de foncier. On n'a pas réussi à avoir ni un terrain, ni un hôtel à reprendre et à rénover. On espère qu'un jour, on pourra compléter l'émaillage de l'IMO avec le Togo. Ensuite, on a attaqué la CDAO avec la Guinée-Conakry, où nous sommes en train de construire. La Mauritanie, où nous sommes déjà, qui est un ancien pays CDAO qui veut revenir. Et on va attaquer les pays anglo-saxons de la CDAO. Donc, notre vision, c'est de développer en Afrique. On a quasiment fait l'Afrique de l'Ouest. On commence un projet à Douala. On s'intéresse un peu à l'Afrique de l'Est.
Combien d'hôtels vous avez en construction, en projet ?
Aujourd'hui, nous sommes sur 4 projets en construction. Donc, Dakar, Conakry, Nous sommes en train de rénover Ouagadougou, qui a été saccagé pendant les événements d'octobre 2014. Et nous allons lancer les travaux dans les semaines à venir de notre hôtel à Niamey. Et nous venons de signer un accord de partenariat au Cameroun pour démarrer un projet à Douala. Et nous sommes en prospection à Lagos et à Accra. J'étais à Accra la semaine dernière.
Est-ce que vous ouvrez un hôtel à Paris ou à Londres?
Justement, je disais que c'était notre vision était de rester uniquement sur le continent africain, parce que nous ne voyons pas une valeur ajoutée pour nous à Paris ou à Londres, même si souvent je rencontre des amis qui me disent peut-être avoir une bannière africaine à Paris ferait sens et les Africains...
Oui, parce qu'il y a beaucoup d'Africains qui viennent à Paris.
Exactement.
Qui pourraient venir chez vous.
Ce n'est pas exclu, mais vous savez, Monsieur Boris, un projet hôtelier prend beaucoup de temps. Sur le continent, c'est minimum 3 ans si vous êtes performant, mais en général, c'est 4 ans. Entre le moment où vous trouvez le foncier, vous faites les études, vous trouvez le financement, vous construisez avec les retards inévitables, c'est 4 ans. Donc, c'est chronophage. Ensuite, ça demande. On a quand même un business model qui demande beaucoup de capital, puisque nous sommes à la fois propriétaires de nos hôtels et gestionnaires de nos hôtels sous notre propre marque, qui est la marque Azalai. Tous les grands groupes ont commencé comme ça, et après, petit à petit, ils deviennent uniquement gestionnaires. Je pense que nous ne sommes pas loin du point où nous aussi, nous allons pouvoir vendre notre expertise que nous avons construite pendant 25 ans à des promoteurs hôteliers.
Julien Clémenceau, on parle de l'hôtel Indépendance auquel vous faisiez allusion il y a quelques instants.
Cet hôtel, il a donc brûlé. Vous avez obtenu des financements de la BOAD pour sa reconstruction, et puis le chantier a l'air de s'éterniser.
Non, le chantier avance très bien. Il y a une mission qui vient de rentrer de Ouagadougou, puisque nous faisons une revue de projet tous les mois. Le chantier avance très bien. En fait, on a mis du temps à démarrer le chantier, parce que nous étions en discussion avec l'État du Burkina Faso pour proroger le bail. Parce que c'est un hôtel, nous ne sommes pas propriétaires des murs, mais nous avons un contrat de location-gérance qui est un contrat de 15 ans qui a été brutalement stoppé par les événements. Donc il a fallu renégocier le renouvellement de ce contrat qui vient d'être signé par l'État du Burkina Faso. Et donc les travaux ont démarré depuis un an. Et nous allons ouvrir cet hôtel en février 2020.
Alors, autre hôtel de votre chaîne qui a eu des problèmes, l'hôtel Nord-Sud à Bamako, qui a été la cible d'une attaque terroriste, il y a eu des morts. On imagine que vous avez été obligé de prendre des mesures de sécurité pour l'ensemble de vos établissements. Est-ce que ça obère votre rentabilité?
L'hôtel Nord-Sud, en fait, a fait l'objet d'une tentative d'attaque isolée. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'en fait, l'hôtel Nord-Sud n'est plus un hôtel. Ce n'est pas un hôtel ouvert au public, c'est un hôtel caserne, puisque c'est là que réside l'EUTM, qui est la force d'entraînement de l'armée malienne, qui a été mise en place par l'Union européenne. Donc c'est vraiment un hôtel caserne. Donc c'était un tireur isolé, effectivement, et ce tireur, je crois, a été tué. Et donc il n'y a pas eu du tout de...
Il n'y a pas eu de mesures de sécurité nécessaires supplémentaires.
C'est quasiment une caserne militaire. Par contre, suite à l'attaque du Radisson qui a fait plusieurs morts parmi les clients de l'hôtel, nous avons considérablement renforcé les mesures de sécurité dans tous nos hôtels. Pas uniquement à Bamako, d'ailleurs. Vous savez, nous sommes dans des pays qui sont vraiment dans cette bande sahélo-sahélienne où les problèmes de sécurité sont aujourd'hui des problèmes cruciaux. Donc, nous avons pris des mesures en concertation avec les autorités de tous ces pays qui nous aident justement à évaluer nos hôtels sur le plan sécuritaire. Donc, nous mettons en place... Ça nous coûte de l'argent, c'est beaucoup d'investissements dans des scanners, dans des formations et tout ça. Mais aujourd'hui, les clients internationaux qui voyagent, son premier critère, est-ce que l'hôtel est sécurisé?
Et est-ce que ça obère votre rentabilité?
Forcément, ça obère notre rentabilité, parce qu'avant, on n'avait pas tous ces investissements, tous ces équipements qu'il faut acquérir, qu'il faut maintenir. Donc forcément, oui, ça obère notre rentabilité.
Ça représente quel montant d'investissement? Donc les scanners, les formations, peut-être les gens armés à l'entrée.
Bah écoutez, un scanner déjà, c'est minimum 50 000 euros. Ensuite, vous devez payer des sociétés de sécurité, bon, qui étaient déjà là même avant ces problèmes de sécurité. Et puis vous avez aujourd'hui des gardes statiques, c'est-à-dire vous avez l'armée ou la garde nationale ou l'agent.
Que vous rémunérez quand elles stationnent devant les hôtels ?
Dans certains pays, oui. Dans certains pays, vous devez les rémunérer. Dans d'autres, non.
C'était Codici Eco d'ailleurs dans sa formule grand invité de l'économie RFI Jeune Afrique avec Julien Clémenceau. Nous recevons le président du groupe hôtelier panafricain Zalaï, Mossadegh Bahi. Et Julien Clémenceau, je vous redonne la parole pour une nouvelle question.
Depuis la création de votre groupe au début des années 90, la concurrence s'est fortement renforcée en Afrique et en Afrique de l'Ouest. Maintenant, à Bamako, on va trouver un Sheraton, un Hilton, il y a le Radisson dans la région, il y a le groupe français Accor qui a fait beaucoup d'investissements et croit au développement du continent. Est-ce qu'il y aura de la place pour tout le monde ?
Il y aura de la place pour les meilleurs.
Dont vous ferez partie.
Et nous avons la ferme intention de rester parmi les meilleurs, puisque nous faisons déjà partie des meilleurs, puisque ça fait 25 ans que nous sommes là et que nous croissons, nous grandissons. Donc il y aura de la place pour les meilleurs. C'est un secteur, certes, nous on a été pionniers, hein, c'est un secteur qui avant n'attirait pas beaucoup les investisseurs, notamment africains. C'était des chaînes internationales qui étaient là. Maintenant, de plus en plus, les entrepreneurs africains s'intéressent à l'industrie de l'hôtellerie et l'industrie du tourisme en général. Et donc, on a vu les constructions d'hôtels un peu partout, constructions qui sont dues à des investisseurs africains. Je dois préciser que quand on dit Sheraton investit ou Accor investit, en fait, ils n'investissent pas. Ils viennent gérer des investissements réalisés par des investisseurs africains. C'est une précision que souvent les gens n'apportent pas, mais ces hôtels appartiennent en général à des investisseurs africains qui investissent dans les murs et ensuite qui confient la gestion à ces chaînes internationales. Donc je dirais oui, ce qu'il faudrait savoir, c'est que quand même la demande de services hôteliers croît chaque année sur notre continent. L'Afrique, le nombre de visiteurs en 2018, c'était plus 7%, si ma mémoire est bonne, suivant les chiffres de l'Organisation mondiale du tourisme, plus 7% en Afrique. On est à peu près à 70 millions de visiteurs sur le continent. C'est vrai, c'est moins que la France, qui est 80 millions. Et dans le monde entier, on a 1,3 milliard de voyageurs internationaux. Donc l'Afrique capte encore très peu. L'Asie capte presque 350 millions. L'Europe, qui est la première destination touristique, c'est 670 millions de visiteurs par an. Donc l'Afrique n'est qu'à 70 millions et essentiellement concentrée d'ailleurs dans quelques grands pays tels que l'Afrique du Sud, l'Égypte, le Maroc, les Seychelles, Maurice, le Kenya. Mais ça se développe. Chaque année, plus 7% suivant l'OMT. C'est pour ça qu'on a besoin d'hôtels. Je vous donne un chiffre. Dans toute l'Afrique, sur le continent, il y a à peu près 75 000 chambres d'hôtels. Et on pense que d'ici 2020, il y en aura un peu plus de 100 000, 120 000, avec toutes les constructions qui sont en cours. Mais il y a 89 chambres d'hôtels pour 1 million d'habitants en Afrique. Aux États-Unis, il y en a 170 fois plus. Donc, vous voyez un peu la progression qui est possible sur le continent africain. Donc, on a de plus en plus de visiteurs internationaux qui visitent l'Afrique. On a plus en plus d'Africains qui voyagent sur le continent. Donc, il faut des chambres d'hôtel pour accommoder tous ces visiteurs.
Vous pensez que la croissance, elle viendra d'abord de l'extérieur et des visiteurs extérieurs au continent ou d'abord des Africains qui vont davantage voyager et davantage recourir aux services hôteliers ?
D'abord, des voyageurs africains. À condition, bien sûr, que certaines actions soient menées par les gouvernements. Notamment, le traité de Yamoussoukro, qui libéralisait le ciel africain, malheureusement, n'a pas été appliqué. Maintenant, il y a un nouveau traité qui a été signé récemment. Nous espérons que tous les pays africains vont respecter ce traité qui libéralise totalement le ciel africain. Donc ça permettra non seulement d'avoir plus de connexions entre les pays africains et ça va faire baisser aussi les prix, ce qui fera que les Africains vont voyager plus. Ensuite, il faut que tous les pays africains adoptent une politique de visa à l'arrivée. Comme l'ont fait plusieurs pays maintenant, le Rwanda, le Kenya, même l'Éthiopie maintenant, vous pouvez aller, si vous avez un passeport africain, arriver à 10, on vous donne un visa. Il faut que les pays africains adoptent cela. Et croyez-moi, ça va faire un impact considérable sur les voyages intra-africains et augmenter le nombre de visiteurs qui viennent du continent. Mais il y aura aussi une progression des voyageurs internationaux qui s'intéressent au développement économique du continent.
Mossadegh Bali, vous construisez actuellement des hôtels, en particulier vous avez un projet à Dakar. À chaque nouvelle ouverture, on imagine que se pose la question du recrutement du personnel, de la qualité de sa formation. Au Sénégal, il y a beaucoup d'écoles hôtelières, preuve d'un certain dynamisme du secteur. Reportage dans une de ces écoles de la ville, signé de notre correspondant dans la capitale sénégalaise, William de Lesson.
Le petit pois avec de sauce oignon.
Au Marmiton, on apprend tous les métiers de l'hôtellerie, y compris la cuisine. Pour mieux former les élèves, l'école a ouvert un stand de restauration à emporter. Il donne sur la rue. Tout le monde peut acheter ce qu'a préparé aujourd'hui Abidjou.
C'est à la sauce pomme de terre.
Tenir un hôtel ou un restaurant, ça ne s'improvise pas.
Bon, on a appris pas mal de choses. J'ai appris à faire les chambres, comment faire le lit et tout. J'ai appris tout ça. On a besoin de ça parce que tout métier, tu dois être un spécialiste de ça.
L'hôtellerie, des métiers qui attirent de plus en plus de jeunes, estime Jerry Mendy, son camarade.
Parce qu'en sortant, tu peux travailler pour ton propre compte. Mon rêve, c'est d'avoir mon propre entreprise, c'est ça.
Baram Diangra observe du coin de l'œil la préparation des plats. Dans la salle de cours à l'arrière, d'autres sont en devoir sur table. Discipline, rigueur, ponctualité, le directeur des études tient à ce que ses élèves retiennent une chose.
Le client est roi, ça c'est sûr. Ça c'est le slogan qui est de rigueur ici.
L'homme a participé à la fondation de l'école il y a une dizaine d'années. Beaucoup de jeunes, en arrivant ici, doivent désapprendre ce qu'ils pensaient connaître.
On fait en sorte qu'ils puissent se départir de ces connaissances basiques, empiriques, pour leur permettre de pouvoir maintenant prendre en charge les règles culinaires, savoir comment faire la cuisine suivant des règles établi scientifique, de façon scientifique, c'est ça. Donc faire en sorte que l'informel, qui était peut-être leur référence, puisse être effacé par rapport à ce qui est formalisé.
L'établissement forme chaque année plus de 100 jeunes, des jeunes qui doivent ensuite s'insérer dans le monde du travail.
Un reportage signé William de Lesseux à Dakar, question de Julien Clémenceau.
Mossadegh Bali, est-ce que c'est important que chaque secteur ouvre ses écoles professionnelles ?
L'idéal serait que ce soit les États qui fassent ça. Moi, je déplore toujours la trop grande concentration des investissements publics dans l'enseignement supérieur, où finalement, on forme beaucoup de jeunes qui après viennent grossir les rangs des chômeurs, puisqu'il y a une inadéquation entre la formation et les emplois créés dans nos pays, parce que nos économies sont des économies basiques, hein, c'est pas des économies très sophistiquées, donc on a besoin d'emplois qualifiés, de métiers, et surtout de métiers. Et donc nous, ce qu'on a fait, pour répondre à votre question, puisqu'il n'y avait pas d'école hôtelière quasiment dans tous les pays où nous sommes présents, nous avons créé notre propre école hôtelière, l'école hôtelière Chaka Sidi Bé, qui est à sa 4e promotion cette année. Et les 3 premières promotions, nous avons formé environ 150 jeunes, niveau BEPC, qu'on recrute sur concours, et on les forme pendant un an par alternance, donc la moitié du temps à l'école, et l'autre moitié en stage dans des hôtels, des restaurants, dans des missions diplomatiques. Et après, c'est un an, ils ont un CAP, donc un diplôme, et 95% de ces jeunes, aujourd'hui, on trouvait du travail, on puisse s'insérer sur le marché du travail.
Mais dans vos entreprises à vous ?
Non, nous avons recruté environ 30%, puisqu'on ne peut pas recruter tout le monde, et les autres sont recrutés par nos compétiteurs. Vous avez parlé tantôt de Sheraton, lorsque le Sheraton a ouvert, ils ont recruté des jeunes qui ont été formés à l'école hôtelière Chaka Sidi Bé. Je pense que ce sont des exemples de formation technique et professionnelle. Des initiatives qui sont prises par des entrepreneurs ou par des secteurs, mais ça reste encore à petite échelle. Il faudrait que nos pays investissent massivement dans la formation technique et professionnelle, parce que c'est dans ces domaines-là que nos économies créent des emplois. Ce n'est pas dans l'éducation supérieure. Oui, il faut des diplômés aussi dans l'éducation supérieure, parce qu'il nous faut des cadres. Mais majoritairement, nos États doivent investir dans le secteur, dans l'enseignement technique professionnel, puisque les jeunes ont besoin d'être formés rapidement et mis sur le marché.
Quand est-ce que la prochaine promotion sort de vos écoles ?
La prochaine promotion, c'est au mois de septembre. Jusqu'à présent, nous avons fait que la filière cuisine et salle. Et cette année, donc les jeunes qui sont là, on a doublé la capacité. On a eu 50 élèves par promotion, donc on a sorti déjà 150 élèves. Cette année, nous sommes à 90 parce que nous avons ouvert la filière réception et hébergement. Et l'ambition, c'est vraiment d'en faire une école hôtelière de référence dans la sous-région et ultérieurement faire même un brevet, donc 2 ans d'études, et ultérieurement un BTS pour les chefs de service. Donc nous avons beaucoup d'ambition et je dois signaler que nous avons fait tout ça sur fonds propres. Nous avons commencé tout ça sur fonds propres et après il y a Proparco, filiale de l'Agence française de développement, qui a vu la pertinence de notre projet et qui, depuis l'année dernière, nous apporte une contribution financière.
S'il y a des jeunes qui nous écoutent et qui voudraient candidater, comment est-ce qu'il faut faire ?
Ben, ils vont sur le site du groupe Azalaï. Ils trouveront l'adresse e-mail de l'école hôtelière Chaka Sidibé, du directeur, et ils envoient leur candidature. Il y aura un test à la rentrée prochaine, au mois de septembre. S'ils passent le test, ils sont retenus. Et nous, la formation nous coûte environ 2000 euros. Parce que nous faisons venir des professeurs, nous avons un directeur d'école, nous avons des professeurs. Mais les jeunes, jusqu'à maintenant, en tout cas jusqu'à cette promotion, ne payent que 250 000 francs CFA, c'est-à-dire moins de 500 euros, 400 euros environ.
Julien Clémenceau, qui vous pose une question sur la situation politique au Mali.
Depuis 2012, votre pays connaît une grave crise. Bamako fait face à un double défi qui est à la fois de combattre les mouvements islamistes mais aussi de redonner une unité au pays. Est-ce que vous faites confiance à la classe politique pour créer des conditions propices au développement ?
Vaste question. Je pense qu'aujourd'hui, le Mali est à la croisée des chemins avec clairement un blocage politique. La classe politique n'arrive pas à s'entendre. Et je dois dire que les Maliens, dans leur ensemble, sont assez déçus de cette classe politique qui est là, qui gouverne le pays depuis mars 91, suite au changement de régime. Et notamment, les jeunes sont très déçus de cette classe politique et de là où cette classe politique nous a menés. Je pense qu'il faut du changement, je pense qu'il faut du sang neuf. Mais en attendant cela, il faut que cette classe politique actuelle, que ce soit majorité opposition, puisse s'entendre pour faire sortir le pays de la situation dans laquelle il se trouve. Donc on a une crise sécuritaire qui était d'abord dans le nord, maintenant qui a migré vers le centre. Et le centre, c'est même encore plus grave parce que c'est des conflits intercommunautaires, ce qui est beaucoup plus grave parce que dans le nord, c'est un État souverain qui combat des groupes terroristes. Mais dans le centre, c'est des ethnies, des Maliens, qui s'entretuent. Donc ça, c'est beaucoup plus grave. Il faut impérativement qu'une solution soit trouvée pour mettre fin à ces tueries-là dans le centre. Et ensuite, régler le problème, bien sûr, du nord, qui est un problème qui revient chaque 10 ans. Donc il faut trouver une solution définitive à ce problème qui revient chaque 10 ans dans le nord du pays.
Est-ce que ça vous donne, vous, envie de vous engager personnellement pour aider à faire avancer ces questions, notamment le dialogue intermalien ? Est-ce que ça vous donne envie d'aller en politique ?
Non, on me pose souvent cette question. Moi, je suis engagé sur le terrain économique. Je compte rester sur ce terrain-là. Mais exprimer des opinions, faire des suggestions, tirer la sonnette d'alarme pour dire « ça ne va pas dans notre pays, il faut que ça change », c'est faire de la politique. Ok, dans ce cas, je fais de la politique, mais je n'ai pas du tout l'intention de me présenter à des élections ou de chercher un poste, quoi que ce soit. Je suis un citoyen malien, J'estime que mon pays connaît d'énormes difficultés et je dois exprimer des opinions. Et je demande d'ailleurs à la société civile de s'exprimer davantage. Cette société civile qui est désintéressée, qui ne veut pas se lancer dans une bataille électorale pour accéder au pouvoir d'État, cette société civile doit s'exprimer parce que je pense aussi que l'opinion de la société civile est une boussole pour la classe politique.
Vous êtes originaire, vous l'avez dit tout à l'heure, d'un village qui se trouve à 250 km de Tombouctou. C'est une zone donc, qui a été gravement affectée par la crise, notamment depuis 2012. De quoi vivent les gens dans cette région ?
La vie est très difficile dans cette région. C'est des populations nomades qui vivaient de nomadisme. Et aujourd'hui, avec l'insécurité, il y en a beaucoup. D'abord, peut-être qu'ils sont plus dans leur zone traditionnelle, qui sont peut-être réfugiés en Mauritanie ou ailleurs, ou quand ces populations ne sont pas réfugiées dans des pays limitrophes, elles sont réfugiées à l'intérieur du Mali. Même hier, il y avait justement une émission là-dessus, et, sur votre antenne d'ailleurs, qui disait que le nombre de réfugiés internes au Mali a cru considérablement. Donc c'est vrai que ce sont des populations dont le mode de vie a été complètement affecté par cette insécurité.
On voit que vous êtes un auditeur fidèle de RFI, Mossadeq Bali, on peut que vous en féliciter. Alors il y a un autre sujet dont on parle beaucoup sur nos antennes en ce moment, c'est le franc CFA, Julien Clemenceau.
La semaine dernière, c'est la classe politique italienne qui a relancé la polémique en évoquant l'attitude de la France vis-à-vis de ses anciennes colonies et notamment en accusant la France de financer sa dette grâce aux réserves des pays africains déposées au Trésor en contrepartie du CFA. Quelle est votre opinion, vous, sur le CFA ? Vous parliez tout à l'heure d'intégration économique. Qu'est-ce que vous pensez de cette monnaie héritée du passé ?
Alors, c'est un vaste débat qui nécessite toute une émission. Mais pour aller vite, personnellement, je pense que le franc CFA a vécu et qu'il faille très sincèrement faire une analyse très profonde de son mécanisme. C'est une décision politique. Je pense que 60 ans après les indépendances, il est temps que nous reprenions notre souveraineté monétaire, que nous gardions la mutualisation de nos réserves, mais que nous reprenions notre souveraineté monétaire.
Monaco, Julien Clemenceau, Monaco, une question à laquelle vous teniez,
ben oui,
et qui sera la dernière de cette émission.
Depuis 2010, vous êtes le consul de Monaco à Bamako. Qu'est-ce qui vous a poussé à accepter ce rôle entre le Mali et le Rocher, ce rôle d'intermédiaire ? Est-ce que vous avez placé une partie de votre fortune à Monaco ? Qu'est-ce qui vous a motivé ?
Non, pas du tout. Je n'ai pas de fortune placée à Monaco. C'est que je voulais être utile à ma communauté, à ma société, à mon pays. Et Monaco a toujours des projets dans l'éducation, dans la santé, dans l'enfance défavorisée. Et à un moment donné, les projets prenaient de l'ampleur et ils avaient besoin de quelqu'un qui vraiment pouvait avoir un œil, qui pouvait les aider sur le plan relations politiques. Et donc, au travers de connaissances, ils sont venus me voir. C'est pas moi qui suis allé les voir, c'est eux qui sont venus me voir pour me proposer ça. Et je trouvais ça assez intéressant. C'est totalement bénévole, donc je donne mon temps à faire avancer ces projets.
Merci Mossadeq Bali d'avoir accepté l'invitation de RFI. Cette émission est maintenant terminée. Vous pouvez nous retrouver sur les sites internet www.rfi.fr ou sur le site internet jeuneafrique.com. Je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures économiques.
Écho d'ici, écho d'ailleurs sur RFI.